Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Salut à tous, bienvenue dans l'heure olympique. Les Bleus ont ajouté une 14e médaille avec l'or de Justine Brezza-Boucher sur la Mastart. Déception en revanche pour Quentin Fillon-Maillet qui échoue au pied du podium de la Mastart masculine. Notre consultante Sandrine Bailly sera présente pour un gros débrief de biathlon. Nous parlerons ensuite du chiffre du jour qui concerne le ski alpin. Puis en fin d'émission, nous recevrons Tess Le Deu de retour de Pékin. Elle reviendra avec nous sur son expérience olympique avec sa belle médaille d'argent autour du cou. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, Laurent Vergne et Simon Farvac. Salut à tous.
Salut Adrien.
Salut.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Castbox et en vidéo sur Eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti. La dernière médaille du biathlon est donc venue de la Mastart féminine. Justine Brezza-Boucher a décroché l'or. Pour analyser tout ça, on accueille Sandrine Bailly. Sandrine, on a tous été bluffés par la formidable remontée de Justine.
Bah oui, bah je crois que c'est bluffé, c'est le mot qu'on peut employer qui qualifie le plus bluffante, en fait, on va dire, pour Justine, du coup, qui nous habitue parfois à ce genre de réaction positive. On l'attend, elle vient de nulle part et peut-être elle a besoin de ça aussi, de qu'on l'attende pas, justement. Justine, elle a besoin qu'on l'attende pas pour être là.
Elle avait 1 minute 24 de retard avant le troisième tir, le premier tir debout, et elle ressort à égalité avec Roysland. Enfin, même nous, on suivait ça et d'un seul coup, on voit le temps qui s'affiche. On se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Le 5 sur 5, les autres qui se craquent tout un peu et puis c'est parti quoi. Tu te relances?
Oui, alors finalement, si on regarde bien, les autres n'ont pas craqué au tir puisque sur la ligne d'arrivée, les 4 premières sont à 4 pénalités. Mais là où Justine, elle a fait la différence et c'est encore une fois surprenant, c'est que. Elle a fait un tir en 30 secondes à ce moment-là, alors que les autres ont passé une 30 sur le tapis. Donc vraiment, elle a gagné sa course en acceptant de tirer dans des conditions qui bougeaient, de tirer normalement, en fait, sans les premières. Marthe Horsbou et Thierry Lecoff ont vraiment attendu que les rafales se calment. Elles ne se sont pas calmées, donc ça les a mis en tétanie, en manque d'oxygène. Et ça n'a pas été payant, cette stratégie, finalement. Donc, Justine, je pense qu'elle l'a fait naturellement. Je ne suis pas sûre qu'elle se soit dit, en arrivant sur le pas de tir, Justine, là, il y a du vent. Parce que des fois, on se parle. Hein. Quand on arrive sur le tapis, on dit, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis après, on laisse parler de naturel. Là, je ne suis pas sûre qu'elle se soit dit quelque chose, mais elle l'a fait tout simplement.
Laurent, Simon, qu'est-ce que vous retenez de cette course, Simon?
Bah, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que j'ai beaucoup d'images en tête à ce moment-là de Justine Brezza-Boucher, au contraire, qui, elle, faisait partie souvent des biathlètes tétanisés, qui se posaient beaucoup de questions sur le pas de tir. J'aurais plus misé, par exemple, sur une Julia Simon pour se relancer comme ça avec un 5 sur 5 très rapide. Justine Brezza-Boucher, je l'imaginais plus être dans la difficulté, la même difficulté que Thierry Lecoff, qui a dû même faire des flexions après 10, 15, 20 secondes d'attente avant de lâcher sa première balle. Et donc, elle nous a tous surpris en signant ce passage sur le pas de tir éclair. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est ce qui se passe juste après. Tu l'as dit, elle ressort dans le même temps que Marthe Holzbourg-Roysland, donc 0.0 l'écart. Et l'intermédiaire suivant, on voit 15 secondes. Donc, en fait, Roysland a fait 2 tours. Donc, je pense qu'elle les avait peut-être dans les jambes et qu'elle n'a pas voulu se mettre dans le rouge.
Exactement.
Mais c'est vraiment très important ce moment de la course où... Justine Brezza, sans même trop s'en rendre compte, ne se contente pas d'être revenue en tête, mais enfonce le clou et c'est ce qui lui permet d'avoir une, non pas une balle de marge, mais quand même 10-15 secondes de marge avant le dernier passage face aux cibles.
Ouais, parce qu'elle n'a pas cherché à accélérer.
Oui, c'est ce qu'elle a dit après, ça s'est fait naturellement.
Elle a dit qu'elle s'est retournée à un moment donné et qu'elle a été très étonnée d'être toute seule, mais que ça l'a ni affolée ni rien. Elle est restée
calme.
Voilà, très très calme. Et c'est ce calme qui a fait la différence, clairement. Ça s'est joué là-dessus.
Ouais, c'est vrai que c'est hallucinant. Je suis assez d'accord. Parfois, on a des athlètes qui gagnent et qui, on sait qu'ils ont pris les choses en main finalement et que quand ils ont décidé d'accélérer à tel endroit, ça s'est vu, ils sont passés devant au pas de tir. Justine, c'est une configuration différente, quoi. Elle s'est laissée porter et comme elle a un talent naturel, bah, ça l'a fait. Et par contre, on ne peut pas vraiment dire qu'elle ait pris en main la course, ça s'est fait naturellement.
Il y a un petit accro quand même sur le dernier tir. Cette faute arrive en début de tir au debout. Donc là, on peut craindre que le stress monte. Et même là, on n'a pas ressenti ça. Elle a fait un tir quand même engagé. Parce que le risque, ça aurait été de compter sur cette demi-balle. Enfin, cette demi-balle d'avance, on ne peut pas compter dessus si on fait un tir lent. Mais vu le tir qu'elle avait fait, même avec un 5 sur 5 assez lent derrière, une biathlète aurait pu ressortir devant elle, mais pas loin. Donc avec ce tir-là, elle était sûre en tout cas d'être encore dans la course pour la gagne, parce que elle a tiré naturellement. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue. Il n'y a pas eu de pensée parasite à ce moment-là.
Non, elle n'a pas eu de pensée parasite. Et puis parfois, c'est vrai qu'en biathlon, quand on rate la première, ça nous fait un petit coup de fouet. On se dit « Ah mince !» Et du coup, elle a enchaîné avec sa deuxième, troisième, quatrième, cinquième, un petit peu en rehaussant son niveau de lucidité parce qu'elle avait raté la première. Mais ça, du coup, ça a permis qu'elle ne réfléchisse pas, en effet. Donc, ça a été un mal pour un bien, finalement, cette balle sortie. Et les autres, après, pareil, elles ont encore plus tourné et le mal était fait pour elle, de toute façon. Justine, elle n'avait plus qu'à dérouler, donc voilà quoi.
Ouais, Sandrine, moi j'aurais voulu que tu nous parles un peu de la personnalité de Justine, qui a un côté insaisissable, insondable.
Comment dire
pour nous de l'extérieur, mais j'ai l'impression, même dans le groupe. Et j'ai retrouvé une déclat de Stéphane Boutiot avant les, je crois que c'était les mondiaux d'Östersund en 2019. Où il avait dit, donc il l'avait un peu allumé publiquement hein, avant les mondiaux, il avait dit il faut qu'elle se structure parce que si elle reste comme ça, ça va être compliqué. On a toujours l'impression qu'elle est absente. Quand on parle avec elle, elle écoute, mais je ne suis pas sûr qu'elle entende. Alors, c'était qui Justine Brezza-Boucher?
Ah, Justine, c'est une fille qui est paradoxale pour moi. C'est une fille qui fait du biathlon, mais à la fois, je pense qu'elle culpabilise d'en faire. C'est une fille qui se lance dans du sport de haut niveau, mais à la fois, la lumière, je ne suis pas sûre qu'elle aime autant que ça, la lumière. Et là, elle va en avoir des masses. Et donc, ça va être compliqué parce que c'est vrai qu'il va falloir assumer et j'espère qu'elle est prête à ça. Justine, c'est quelqu'un qui est nature. C'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime les gens, même si elle est plutôt introvertie. C'est quelqu'un qui bosse. Ses parents sont agriculteurs. Elle a deux sœurs. Elle est très très proche de sa famille. Mais c'est quelqu'un en effet qui parfois est surprenant parce que elle cherche trop midi à 14h. Ça peut poser question parfois parce que dans le sport finalement c'est simple. Ça doit rester simple. Le sport, voilà, on s'entraîne, on sait qu'on a ça à faire. Au tir, noir, je lâche. Quand la machine déraille, c'est compliqué. Mais à la fois, si on arrive à garder cette simplicité, ça fait qu'on le vit mieux, quoi. Et j'ai l'impression parfois que pour elle, c'est difficile à vivre, ce sport. Et quand elle arrive à le vivre de manière joyeuse, ça donne la Justine qu'à la banane et son physique le montre, en fait. On voit qu'elle a les yeux qui pétillent et c'est plus la même Justine. Et voilà, il y a deux Justine en une Justine. Donc, c'est une fille qui est plein de facettes, en fait.
J'ai l'impression Martin Fourcade était très ému aussi. Et je suis sûr qu'il était très content de toutes les médailles qu'il y a eu depuis le début, de tout ce qu'a pu faire Quentin Fillon-Maillet, de la médaille d'argent d'Anaïs Chevalier-Boucher. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression que cette médaille faisait particulièrement plaisir au biathlon français. Peut-être parce que justement, Justine est une fille un peu à part. Il disait que c'était une fille très attachante aussi. J'ai l'impression que vraiment, il y a une joie particulière de l'avoir, elle, championne olympique. Je ne dis pas que ça n'aurait pas été le cas avec une Julia, Simon ou n'importe qui d'autre. Mais elle est quand même vraiment à part quoi, dans ce groupe.
Martin Fourcade a assumé d'ailleurs à notre micro cette difficulté qu'il a eue sur le moment à rester dans le costume.
Oui, de mettre de bien rester consultant. Ouais. Il a dit que c'était compliqué.
Oui, mais c'est vrai que je pense aussi qu'on est toujours content quand on voit quelqu'un qui n'est pas à son niveau. Et en plus, c'est vrai que finalement, elle se fait un peu passer par Julia, qui est sa copine à la base. Elles ont un petit peu le même parcours au sein du club. Et pourtant, elles ont le même parcours. Elles sont issues des mêmes endroits, mais elles ont deux parcours différents, avec une Julia qui s'est blessée au début de sa carrière et puis ensuite qui arrive et qui claque tout et qui prend un petit peu le devant sur une Justine plus en retrait. Justine qui est une grosse bosseuse. Je pense que dans le milieu aussi, on sait que voilà, il y a du travail derrière et qu'il y a des gens qui galèrent et qui n'arrivent pas toujours à empiler tout au bon moment. Et je pense que du coup, je crois que Martin était aussi, il a eu des mots qui étaient vrais sur le biathlon féminin. C'est aussi la belle récompense pour cette équipe féminine, même si je ne suis pas sûre qu'elles arrivent à fêter ensemble. En tout cas, pour les coachs du biathlon féminin et tout le staff, c'est important.
Très, très, très sympa d'avoir ces mots, en tout cas pour Justine Breza-Boucher. J'ai envie aussi d'avoir, et je ne sais plus qui à l'antenne a eu cette pensée aussi, pour Anaïs Bescon, qui est finalement la seule qui n'a pas eu de médaille.
Je crois que c'est Sandrine.
Sandrine, c'est toi qui as eu ces mots. Voilà, donc ouais. C'est une pensée pour elle aussi, pour l'équipe. Tu disais, ce n'est pas forcément simple de partager tout ça ensemble. C'est-à-dire, quand il y en a une qui passe un peu à côté, c'est difficile.
Et puis Julia Simon, on en parlera quand on fera le bilan, mais qui passe quand même tout près finalement de deux médailles en indiv sur l'individuel, si je ne me trompe pas, et puis aujourd'hui sur la mass start où elle est dans le coup jusqu'au bout. Et même si elle fait un 5 sur 5 au dernier, on peut avoir un doublé. Donc je pense qu'elles sont contentes pour Justine, mais bon, c'est des compétitrices et là on est sur des épreuves individuelles. Et comme en plus elles ont raté ce relais collectivement, c'est d'autant plus dur.
C'est sûr que franchement, s'il y a eu cette médaille en relais, aurait changé dans la façon de fêter Justine. Bon, Justine, elle aurait été peut-être un peu plus fatiguée parce qu'il y aurait eu la médaille à aller chercher. Mais voilà, il manque du coup un petit peu d'émulation collective. Et oui, c'est très dur pour celles qui n'ont rien et qui méritaient. Et ouais, c'est les Jeux, franchement, on les aime comme on peut les détester. Hein. Moi, je suis partagée. Des fois, je les aime, des fois, je les déteste. Et quand on est à tête, c'est pareil.
Bon, il y en a un qui doit les aimer en tout cas, c'est Quentin Fillon-Maillet, même si ça ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité aujourd'hui sur la mass start. On va en parler dans la deuxième partie. Quentin Fillon-Maillet doit être déçu pour sa mass start, pas pour l'ensemble de ses jeux, mais cette déception aujourd'hui, si l'on regarde le résultat du Jurassien, il a coincé, on peut le dire, quatrième à l'arrivée. Pourtant, il avait l'or au bout de la carabine sur le dernier pas de tir. Mais ces dernières fautes, trois fautes, ont été rédhibitoires. Sandrine, on l'a quand même vu arriver avec le sourire, Quentin, même si nous, on ne peut pas s'empêcher d'avoir cette petite pointe de regret, de déception.
Ouais. Je ne sais pas quoi dire, parce que on est devenu tellement exigeant, mais presque tant mieux qu'il ait fait que quatrième, parce que...
Non, tu ne peux pas dire ça, on ne peut pas te laisser dire ça.
Non, mais... Moi, je me dis qu'au niveau du sport, après, on pense qu'à chaque fois, Quentin va être capable de monter sur le podium et que ça se fait comme ça et qu'à côté, il n'y a pas grand monde pour rivaliser. Alors qu'en fait, c'est loin d'être si compliqué. Et puis, il y a cet aspect mental aussi qu'il a rattrapé. Tant mieux que quelque part... Enfin, tant mieux. Je me dis que dans ce qui arrive après, comme il va jouer le classement général de la Coupe du Monde, il va être confronté à des tirs comme ça. Où il va devoir gérer et à un moment donné il va jouer quelque chose de gros aussi, parce qu'un globe, c'est dans la tête, c'est énorme, on n'a pas le droit de se rater parce que l'occasion ne se présentera pas forcément à nouveau, c'est sur toute une saison, et si il doit le jouer à la fin, il va devoir gérer des tirs en confrontation comme ça où il ne devra pas rater. Donc tant mieux qu'il ait eu quelque part ce moment d'instabilité où il a laissé ses émotions prendre le dessus, parce que c'est que comme ça qu'on apprend à gérer, en fait, à devenir un peu une machine de guerre. Et même s'il est déjà une machine de guerre, et ben voilà, il a été un peu moins aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça. En tout cas, physiquement, il était toujours là. Il n'est pas fatigué, hein. Le mec, il tient bon, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a la caisse et qui n'aura pas eu de moment de fatigue sur ses jeux. Après, bon, ben voilà, c'est comme ça.
Monsieur,
moi, je trouve que justement, ce ne sont pas des machines de guerre, ces garçons et ces filles. Et moi, ça fait partie de ces moments qui me font. Tu disais tout à l'heure que tu aimais les jeux autant que tu pouvais les détester. Bah, ça fait partie de ces moments où on aime le biathlon autant qu'on peut le détester. Et je me souviens de Martin Fourcade, qui a quasiment l'or olympique assuré, c'était sur l'individuel, il me semble, à Pyeongchang, où il rate ses deux dernières balles, lui, Martin Fourcade.
C'est Johannes Beu qui en profite d'ailleurs.
C'est Johannes qui en profite, et Martin qui, à l'arrivée, dit quel sport de merde ou quel sport à la con. Et c'est exactement ça. Et moi, c'est évidemment, on est très frustré quand ça tombe sur Quentin Fillon-Maillet. Mais l'autre jour, Johannes Beu aurait pu, et j'ai presque envie de dire, aurait dû gagner la poursuite. C'est tombé sur lui. Et ce qu'on a vécu aujourd'hui avec les deux Mastarts, mais c'est ce qui fait toute la beauté de ce sport, où on a l'impression que les cartes peuvent être battues à chaque passage sur le pas de tir. Et c'est ce qui le rend pour moi vraiment extraordinaire. Donc oui, forcément, ce qui est terrible, c'est que là, il avait aujourd'hui une opportunité qui probablement ne se représentera pas, c'est-à-dire de faire ce grand chelem, de faire 6 médailles en 6 courses, de devenir le premier sportif aux Jeux d'hiver à avoir 6 médailles dans une Olympiade. Si la déception est forte, c'est pas tant parce qu'il finit 4e de la Mastart que parce qu'il avait une chance comme il n'en verra plus dans sa vie. En tout cas, je lui souhaite, mais c'est le plus probable. Mais en même temps, pour avoir eu cette chance, il a fallu qu'il fasse des Jeux Olympiques qui sont tout simplement hors normes. Et c'est vrai qu'on a commencé à entendre un petit peu que, de toute façon, s'il faisait autant de médailles, c'est parce qu'il n'y avait pas de concurrence à part Johannes Beu et que c'était presque facile. Et ces moments-là, ce qui est arrivé à Martin Fourcade sur l'indiv à Pyeongchang, ce qui a pu arriver à Johannes Beu sur la poursuite, ce qui est arrivé aujourd'hui à Quentin Fillon-Maillet sur la Mastart, ce sont des moments très douloureux, mais qui rehaussent toute leur victoire et tout leur podium. Donc pour moi, c'était cette Mastart un très très beau moment de biathlon, même si évidemment j'aurais préféré que Quentin fasse 20 sur 20 et qu'il gagne avec 50 secondes d'avance et que ce soit la promenade. Mais c'est les émotions qui, moi, me font aimer le biathlon depuis 30 ans, souvent pour le meilleur, parce qu'on est quand même relativement gâtés, nous, les Français, faut pas l'oublier, et parfois pour des immenses frustrations comme ça. Mais c'était un très très grand moment de biathlon.
Ce qui est exceptionnel dans ce moment, c'est que malgré ses trois fautes, il peut encore jouer la médaille. Parce que derrière, il y a beaucoup de biathlètes qui ratent également. Donc, il y a ce moment de tension qui se prolonge du passage de Johannes Beu en fait, jusqu'au 5 sur 5 de Christiansen. D'ailleurs, vous l'avez vécu comme ça à l'antenne en se disant, est-ce qu'il y en a un qui va s'engouffrer dans la brèche? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de ratés. Et Fillon-Maillet aurait pu obtenir une médaille malgré ce dernier tir totalement loupé. J'ai bien aimé également sa réaction à l'issue de la course où il assumait que pour quelques minutes au moins, la déception prendrait le pas sur la satisfaction de ses jeux qui sont bien sûr excellents. C'est un grand champion en veut toujours plus, il en voulait encore toujours plus aujourd'hui et il l'a dit, il a été rattrapé par ses émotions comme tout le monde peut l'être.
Après, ce qui est fou, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la base, son objectif n'a jamais été de faire le grand chelem.
Bien sûr,
c'est qu'en fait, c'est des choses qui sont venues bouleverser un petit peu ces objectifs. On n'a jamais entendu « moi, je viens au jeu pour faire 6 podiums ». Et du coup, là, il s'est mis cet objectif supplémentaire parce que nous, l'entourage, on lui a mis. Et du coup, évidemment, en tant qu'athlète, il s'est dit « bah ouais, ça serait, je marquerais l'histoire, machin, machin, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait ?»
Il l'a déjà marqué, l'histoire.
Ouais, ah bah voilà, oui, c'était déjà fait de toute façon. Et puis, ça n'enlèvera rien. De toute façon, ça reste des chiffres qui sont en plus modifiables. Parce que si un jour le comité olympique décide d'enlever une course dans le biathlon, ça ne sera plus jamais réalisable de faire 6 courses d'affilée. Comme quand Ole Einar a réussi à faire ses 4 médailles d'or, il y avait bien moins de compétitions en biathlon à cette époque-là. Il n'y avait
pas de Mastart.
Il n'y avait pas de Mastart.
Et pas de relais mixte.
Oui.
Et voilà, donc il y avait quand même 2 chances en moins. Donc là, on a quand même beaucoup de chance en biathlon. C'est encore une fois, ça, c'est grand luxe d'avoir autant de compétitions pour s'exprimer.
Non, mais il y aura peut-être le relais mixte simple un jour aussi.
Oui, comme au championnat du monde, ouais.
J'espère qu'ils ne vont pas nous le mettre. Hein, parce que là, c'est abusé. On va se faire maudire par les autres. Hein, on aura trop de chance.
Non, mais c'est l'abondance de biens peut nuire.
Ces jeux sont extraordinaires, Quentin Firmet, et peut-être encore plus quand on connaît la saison qu'il fait. Parce que vraiment, on l'a dit déjà dans le podcast tout au long de cette quinzaine, mais il est arrivé à Pyeongchang avec une pancarte en numéro 1 mondial avec ce dossard jaune. Donc, il y avait presque envie de dire toutes les raisons que la pression qu'il a rattrapée peut-être aujourd'hui sur le tout dernier tir de ses Jeux le rattrape bien avant. Donc, il fait une 4e place et on en arrive presque à dire... 4e, quoi. Ouais. Voilà. Donc, Quentin Firmet, il a un très bel avenir devant lui. Si quand il n'est pas bon, il fait 4e, je pense.
Ouais, ça, c'est vrai. Ça.
Un moment de mal.
On va passer au sujet suivant, si vous le voulez bien, avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour aujourd'hui, il concerne le ski alpin avant le team event prévu samedi. Laurent, en cas de médaille, le bilan pour la France serait exceptionnel, tout simplement. Record.
Ouais, ce serait vraiment un très très bon bilan. Et c'est vrai qu'on a beaucoup dit que le biathlon français, et à juste titre, avait fait des jeux formidables. Et heureusement qu'il y avait le biathlon. Mais les jeux du ski alpin, côté tricolore, c'est pas mal du tout. 3 médailles pour l'instant, une en or, une en argent, une en bronze. Et il reste ce team event. Et effectivement, s'il y a une médaille dans le team event, ce serait la 4e médaille donc dans cette quinzaine à Pékin. 4 médailles pour le ski alpin français, ce serait tout simplement le meilleur bilan depuis 1968, où là, à Grenoble, ça avait été la razzia, 8 médailles. Mais depuis 68, 4 médailles, c'est le record. C'est arrivé qu'une seule fois. C'était à Salt Lake City en 2002, avec l'or de Carole Montillet en descente et l'or de Jean-Pierre Vidal en slalom. Sébastien Amier, argenté en slalom. Et Laure Pégnaud, également en argent, également en slalom. Mais 4 médailles, ça égalerait Salt Lake City. Ce serait vraiment un très, très bon bilan. D'autant que ce serait 4 médailles, alors qu'Alexis Pinturault, qui est quand même le leader de cette équipe de France depuis des années, et qui avait à lui tout seul déjà, on va dire, 3 bonnes opportunités de monter sur le podium, et malheureusement passé au travers. Mais finalement, c'est presque rassurant. Voilà, le ski alpin français n'est pas Pinturault dépendant, la preuve pendant ces Jeux. Donc 3 médailles, c'est déjà un bilan qui est très correct, mais 4, ce serait vraiment très, très satisfaisant, surtout par rapport au contexte de cette quinzaine.
On croise les doigts, team event à suivre dans la nuit de vendredi à samedi. La dernière épreuve du ski alpin avec une belle équipe de France. On l'imagine revancharde. Alexis Pinturault sera dans l'équipe et on l'espère pour décrocher cette 4e médaille. On enchaîne, si vous le voulez bien, avec notre dernière partie. Retour de Pékin et on accueille Tess Le Deux. En retour de Pékin, aujourd'hui, on reçoit une médaillée olympique avec Tess Le Deux. Salut Tess, ça nous fait plaisir de te recevoir dans le podcast L'Heure Olympique. Alors avec toi, on ne va pas se mentir, on est passé par toutes les émotions, l'attente, l'espoir. On a compati un peu avec toi, avec cette médaille d'argent. Toi, j'imagine que c'est pareil, tu es passé par plein d'émotions. Qu'est-ce qui aujourd'hui te reste ?
Ouais, ces Jeux, c'était fort en émotion, hein. C'était intense. Après, voilà, c'est les Jeux Olympiques, c'est comme ça, tout est fois 1000, c'est vraiment une expérience incroyable. Aujourd'hui, ce qui me reste, c'est que du positif, parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui revient avec une médaille, et je ne peux que en profiter, quoi. Je ne peux que être heureuse.
On t'a effectivement bien suivi sur le billard. On a beaucoup parlé de ce double cork 1620, parce que c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas forcément des noms qui leur sont très familiers. C'était ta figure signature, entre guillemets, qui te devait te permettre d'exploser tout, sauf que tu as été copié, on ne va pas se mentir. C'était quelque chose que tu mettais en place depuis longtemps.
Ben, c'est une figure qui est venue assez rapidement aux entraînements. Ça fait à peu près 6 mois, 1 an que je la travaille. Ça fait 3-4 mois que je la maîtrise sur la neige. Voilà, c'était vraiment l'objectif de la saison. Mais après, après, c'était sûr qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des filles qui fassent la même chose. C'est normal, ça fait partie du sport. J'aurais peut-être fait la même chose si j'avais vu que le sport avançait vite. Et voilà, ça fait partie du jeu. Je suis quand même contente de décrocher une médaille d'argent avec ce saut-là, parce que voilà, s'il faut, sans ce saut-là, je n'aurais même pas décroché de médaille, donc je n'ai pas à me plaindre.
Laurent, Simon ?
Ouais, j'ai deux questions par rapport à ce fameux saut. D'abord, est-ce que tu dis que tu t'y attendais à ce que d'autres le sortent ? Est-ce que tu as été quand même surprise ? Est-ce que tu avais des échos ? Est-ce que tu savais presque ? Et est-ce que c'était possible pour toi de cacher ces derniers mois que tu préparais ce saut-là et de le sortir au jeu comme l'a fait Gou, par exemple, ou c'était impossible ?
C'est très compliqué parce que c'est un tout petit milieu et il y a très peu d'endroits pour s'entraîner. Donc, normalement, on se retrouve tous au même endroit à une période de l'année. Donc, c'est vraiment compliqué de cacher les figures. Mmh. Voilà, Eline, elle a eu la chance de pouvoir s'entraîner un petit peu en Chine avant qu'on arrive. Et je pense que ça a pu faire la différence. Et c'est l'avantage aussi d'avoir les Jeux dans son pays. Autant en profiter. Et voilà, ça a tourné la chance vers elle. Donc, tant mieux pour elle.
Tu n'avais pas d'infos sur le saut qu'elle allait préparer ? Tu ne savais pas du tout ? Tu te doutais un petit peu ou elle l'avait vraiment bien caché ?
Bon, je me doutais qu'elle préparait quelque chose parce que je savais qu'elle était partie en Chine un petit bout de temps avant. Donc, je pense que ce n'était pas pour rien. Après, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Ça ne me surprend pas plus que ça qu'elle ait fait cette figure-là parce qu'elle avait la technique pour. Après, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'elle le sorte là. Et je pense qu'elle ne l'avait pas prévu non plus. C'était vraiment en cas d'extrême urgence, c'était un petit coup de poker à jouer. Elle a joué et ça a marché. Et franchement, bravo à elle, quoi.
Simon ?
J'avais une question sur quelle était ton épreuve favorite, celle sur laquelle tu misais le plus entre le Big Air et le Slopestyle. Et dans la même veine, pourquoi, quand on voit par exemple Ngu qui peut faire un triplé de médailles, tu ne fais pas de Halfpipe parce que tu l'envisages aussi pour l'avenir ?
Non, je n'envisage pas forcément. Je préfère vraiment me concentrer sur deux disciplines. C'est déjà assez intense. Franchement, bravo aux filles qui font les trois disciplines parce que c'est vraiment pas facile. Et voilà, enfin, moi, je préfère me concentrer uniquement sur deux disciplines. Après, non, je n'ai pas forcément de préférence. J'ai essayé d'arriver sur ces jeux prête à 100% sur les deux disciplines. Après, voilà, ça reste de la compète, ça reste la compétition d'un jour. Et ce n'est pas facile de se remobiliser à chaque fois. Et c'est déjà... pour moi, une belle performance de repartir avec une médaille. Et voilà, il y a des athlètes qui repartent sans rien. Donc, c'est sûr que je suis un petit peu frustrée du slopestyle parce que je m'étais préparée à fond aussi. Mais j'aurais pu repartir sans rien. Donc, cette médaille, elle est importante pour moi.
Un mot sur la façon dont tu as vécu ces Jeux. Tu étais vraiment très, très jeune à Pyeongchang. Hein, donc, j'imagine qu'il y avait un côté Disneyland peut-être un peu pour toi. Là, de l'extérieur, j'ai l'impression que tu les as peut-être plus apprécié. Est-ce que l'expérience de Pyeongchang t'a aidé aussi à vivre ces Jeux de la meilleure des manières à Pékin ?
Oui, en fait, c'est vrai qu'à Pyeongchang, j'ai pas vraiment bien vécu mes Jeux. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à profiter de toutes les infrastructures qui avaient été mises en place. J'étais vraiment très, très focus sur ma compétition, mais presque à oublier le plaisir des Jeux Olympiques et tout ce qui va avec. Là, je suis partie ici. Je me suis dit, là, je vais profiter à 100%, quoi. Je veux repartir d'ici sans aucun regret. J'ai fait la cérémonie d'ouverture. Je pense que ça va rester à jamais gravé dans ma mémoire. J'ai profité un peu de tout ce que je pouvais faire sur place, etc. Et je pense que ouais, je peux repartir de là-bas sans aucun regret. J'ai profité à 100%. Je suis partie avec l'envie de garder le sourire sur les 15 jours, avec l'envie d'être super positive. Il y a eu des hauts, des bas, mais voilà, j'en retiens vraiment que du bon.
Mais ça se sent vraiment ça se sent que tu as vraiment profité, que tu as pris beaucoup de plaisir. On le sentait en te voyant pendant ces Jeux. Et là, de ce que tu nous dis, effectivement, c'est ce qui ressort. Est-ce que tu te projettes à... déjà, sur la suite de ta carrière, et tu es encore toute jeune, hein, tu as deux Jeux Olympiques à 20 ans derrière toi, il y a des filles qui ne l'ont jamais fait à cet âge-là. Est-ce que tu te vois 2026, peut-être même 2030, tu as un plan de carrière à long terme ?
À long terme, non. Bien sûr que j'ai envie d'être là dans 4 ans parce que c'est en Europe, c'est proche de la maison et ça va être des fuseaux horaires un peu plus... plus facile pour la famille. Donc, ça va vraiment être cool. Et j'espère que dans 4 ans, je serai compétitive et que je pourrai aussi faire de belles choses. Mais je ne me projette pas. Honnêtement, je ne me projette pas. J'essaie de prendre saison après saison. L'année prochaine, on a des beaux objectifs aussi avec les championnats du monde. Et puis voilà, je vais essayer de profiter, de voir jusqu'où ça m'emmène surtout. Mais je ne me projette pas dans 10 ans. Ça, non.
Ah, c'est quand même déjà une saison parfaitement réussie, hein. 2 médailles aux X Games, 1 médaille d'argent aux Jeux Olympiques. C'est quand même difficile de faire la fine bouche. Est-ce que tu nous prépares des petits tricks secrets? Parce que maintenant, tu as compris qu'il fallait qu'il fallait pas tout dévoiler. Est-ce que ça va être une manière d'approcher les choses différemment et de se dire, OK, là, vous m'avez fait le coup, la prochaine fois, c'est moi qui aurai des tricks secrets?
Bah, en fait, je savais déjà qu'il ne fallait pas tout dévoiler. Et c'est pour ça que déjà, j'ai attendu les X Games 2 semaines avant les Jeux pour sortir cette figure. C'est sûr qu'Aileen, elle ne l'a pas appris il y a 2 semaines, la figure. Hein, donc, ça n'aurait rien changé que je la sorte aux X Games ou aux Jeux parce qu'elle l'avait, je pense, tu n'apprends pas une figure en 2 semaines. Donc,
il faut combien de temps d'ailleurs pour mettre en place et maîtriser surtout une figure comme ça?
Ça dépend. Ça peut prendre 3 ans comme ça peut prendre 6 mois, 3 mois. Ça dépend vraiment le feeling qu'on a avec telle ou telle figure. Après, c'est sûr que ça ne se fait pas en 1 ou 2 semaines. Mais ces jeux, ça me servira d'expérience pour la suite, comme chaque compétition, en fait. Et voilà, bien sûr que je prépare des choses parce qu'après chaque compétition, je suis déjà fixée sur ce que je pourrais faire l'année d'après. Mais ça reste des secrets et...
On dira rien alors.
On dira pas. Si tu nous fais des tri, si tu vas sur le triple cork ou autre un jour, on dit rien. On garde ça pour nous.
J'avais une question sur les X Games également. Très longtemps, ça a été la compétition phare dans le microcosme du ski freestyle, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, à quel point ça a évolué aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression que les jeux, c'est la vitrine grand public, mais que dans ton univers un peu plus restreint, c'est les X Games qui restent plus forts? Ou est-ce que les Jeux Olympiques, maintenant, ont pris largement le pas en termes de prestige?
C'est compliqué. C'est sûr que les Jeux Olympiques, ça parle au grand public, en fait. Et bien sûr que dans notre milieu, ça a pris une place énorme parce que lorsqu'on gagne les Jeux Olympiques, on est connu aux yeux de tout le monde. Les X Games, ça reste un petit milieu. Au départ, on n'est que 8 invités. C'est compliqué d'avoir sa place. Et pour nous, ça reste une compétition énorme. Mais c'est compliqué de choisir, c'est compliqué de... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, oui, les Jeux ont pris le dessus, forcément. Parce que voilà, c'est compliqué d'être en place le jour J, d'être à fond le jour J. Et il n'y a rien qui égalera ça.
Mais entre vous, vraiment, au-delà de l'impact que ça peut avoir sur votre notoriété, sur le public... Entre vous, gagner les X Games ou gagner les Jeux, du strict point de vue sportif, vous faites une hiérarchie, une différence ou pas du tout aujourd'hui?
C'est compliqué de répondre. Je pense que ça reste 2 événements très, très importants pour nous. Je ne saurais pas vous répondre. Personnellement, une victoire aux Jeux, c'est plus compliqué à aller chercher parce que, comme je le disais, il faut être en forme le jour J et les X Games, c'est tous les ans. Et je pense que c'est ça qui fait une réelle différence. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a tous conscience. Et ceux qui arrivent à être en forme tous les 4 ans, eh ben, bien sûr qu'ils sont respectés.
L'idéal, c'est d'avoir une médaille dans les deux. Comme ça, on est tranquille.
Voilà.
Il n'y a pas de regret à avoir.
Il faut faire passer le message aux instances du football aussi, avec la Coupe du Monde de football qui sera peut-être tous les 2 ans, effectivement. Ouais. La rareté, je pense, rend l'événement d'autant plus précieux, quoi.
C'est ça, c'est sûr, c'est sûr.
Merci Tess d'être passée dans le podcast L'Heure Olympique. L'Heure Olympique, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro avec, on l'espère, de nouvelles médailles. Salut à tous.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.